France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Théa Corlaire, Quentin Péchard, Sacha Mattei et Barthélémy Gaillard, réalisé par Cassandre Puel. Et la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est le dernier épisode de la série que nous avons entièrement consacrée à Gaza cette semaine. Aujourd'hui, Gaza, zone de non-droit humanitaire.
As I address you today, the Palestinian people are being starved.
Alors que je m'adresse à vous aujourd'hui, le peuple palestinien est affamé, bombardé et déplacé de force par Israël, son occupant illégal. Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture, d'eau, de médicaments, de fournitures médicales ou de carburant dans la bande de Gaza depuis 2 mois.
Pour ceux qui sont tués et ceux dont les voix sont réduites au silence, de quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin? Allez-vous enfin agir pour mettre fin au génocide en cours et faire respecter le droit international humanitaire?
Il n'y a plus de guerre. La guerre est terminée depuis longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un assaut barbare contre une population civile. Et si on n'arrête pas, si ceux qui peuvent l'arrêter ne l'arrêtent pas, on continuera comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à Gaza et on se sera rendu coupable d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité massif.
L'ancien ambassadeur et historien Eli Barnavi n'est pas la seule voix israélienne à appeler aujourd'hui à cesser le massacre à Gaza. Même l'ancien premier ministre du Likoud, Ehud Olmert, accuse la clique de criminels que dirige Benjamin Netanyahou d'actes d'une gravité sans précédent dans notre histoire. Oui, nous affamons Gaza et il n'est plus possible de prétendre que tout ce qui est dit aujourd'hui pour condamner Israël résulte de l'imagination antisémite du monde. Gaza ne s'est pas juste effondré sur les femmes, les hommes et les enfants. Gaza s'est effondré sur un droit international patiemment bâti pour conjurer la répétition des barbaries de la Seconde Guerre mondiale, nous disait lundi l'historien Jean-Pierre Filu, citant dans son livre un éditorial du journal Haaretz. Netanyahou a choisi de faire s'écrouler les toits de Gaza sur la tête de tout le monde pour assouvir sa vengeance, comme Samson aveuglé dans le livre des juges de la Bible. « Laissez-moi me venger », disait Samson, même si mon âme périt avec les Philistins. Après le 7 octobre 2023, et il faut bien évidemment le dire, après le plus grand massacre de juifs perpétré en une journée depuis l'Holocauste, plus de 1200 morts et des otages toujours détenus, la réponse israélienne ne punit pas le seul Hamas, mais bien tous les Palestiniens de Gaza. Comment expliquer cette impuissance de la communauté internationale à faire respecter le droit international humanitaire? Qu'est-ce que le droit ne fait pas à Gaza? Mais aussi, qu'est-ce que la situation à Gaza fait au droit? Ce sont ces questions lourdes et graves dont nous parlons et que je vais vous poser ce matin, nos deux invités. Je vous présente Julia Grignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en droit international humanitaire à l'IRSEM, qui est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Président de Médecins du Monde, vous venez de publier une géopolitique de l'action humanitaire parue chez Erol. Alors, pour le début de cette discussion, je voudrais vous poser une question qui vous semblera très certainement difficile parce que vous avez travaillé, pour vous qui êtes juriste ou connu, pour vous qui êtes humanitaire, Jean-François Corti, plusieurs guerres, que chaque guerre a sa couleur de sang sur le gris des routes, cette peur instantanée d'être en péril de mort à toute heure et en tout lieu, cette odeur empestée de corps des hommes, des femmes et des enfants coincés sous les décombres, et que toutes les guerres, d'une certaine façon, violent le droit international humanitaire. Mais qu'avez-vous appris ou vu à Gaza que vous n'aviez pas connu en Syrie, en Libye, en Ukraine, au Yémen, en Irak, au Soudan, au Congo ou ailleurs? Julia Grignon.
Je crois que la situation aujourd'hui à Gaza, elle ne permet plus d'appréhender le droit international humanitaire sans exercer une forme d'esprit critique. Je crois que ce qui a changé aussi, c'est notre regard sur ce droit international humanitaire, puisque comme vous l'avez rappelé, il est constamment violé. Je ne connais pas un seul conflit armé dans lequel le droit international humanitaire ait été intégralement respecté. Mais aujourd'hui, c'est une puissance comme Israël qui viole ce droit international humanitaire de manière totalement décomplexée. Donc là, il y a déjà deux volets. Il y a l'usage de la force, complètement décomplexé. Il y a la justification de l'usage de la force sur le droit international humanitaire et donc une instrumentalisation de ce droit. Et puis aussi, Israël, c'est une puissance dont on pensait qu'elle connaissait non seulement très bien ses règles, mais qu'elle avait aussi, dans le concert des nations, faisait partie de ces nations qui respectaient le droit international humanitaire dans une certaine mesure. Et je crois que le choc, il est là, c'est que on a donc ces violations massives, et on a aussi une justification au plan du droit de ces violations, et c'est pas Boko Haram, c'est pas Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est pas la Russie, c'est Israël. Et c'est notre regard, du coup, qui change sur ces violations, je crois.
Israël qui donne des arguments à chaque fois pour montrer qu'il ne viole pas le droit international humanitaire, on parlera de ces arguments qu'il donne. Je voulais, Jean-François Corti, soumettre à votre connaissance aussi des terrains de guerre, c'est quelques mots que j'ai trouvés d'un texte de Christian Salmon, qui est écrivain et chercheur, qui s'est spécialisé dans la fabrication des discours politiques et qui écrit au sujet de Gaza. C'est une guerre multidimensionnelle menée dans les airs, sur la terre et jusque dans les sous-sols de la bande de Gaza. Les opérations militaires synchronisent la puissance de frappe de l'aviation, assistée des moyens de l'intelligence artificielle, le génie civil des bulldozers et les incursions des tanks que survolent les hélicoptères Apache fournis par l'armée américaine. Il parle d'une violence industrieuse et cadastrale.
Oui, pour la spécificité de ce contexte, dans l'histoire que vous avez rappelée, récente ou plus ancienne, des conflits qui ont toujours été marqués par des violences sur les civils ou sur les humanitaires, la spécificité de Gaza, c'est qu'on a une population, avant les atrocités du 7 octobre 2023, qui était déjà dans une prison à ciel ouvert. On est depuis 16 ans sur un territoire qui est soumis à un blocus, ça veut dire une gestion de pénurie orchestrée par Israël depuis toutes ces années et qui déjà laissait ce territoire dans une précarité certaine.
Après, et des gens qui n'ont pas pu fuir, surtout.
Voilà, donc la spécificité de ce contexte, si on fait référence par exemple à d'autres lieux de siège, où le siège c'est vraiment non seulement un blocus, mais qui est ensuite complété par des destructions massives d'infrastructures essentielles, entre autres différents dispositifs de soins, d'écoles ou autres, alors même que cela ne correspond pas au respect du droit international, humanitaire notamment. Ces situations de blocus, on en a vu à Grozny, en Syrie, à Mariupol, le plus récemment près de chez nous. Mais dans ce genre de contexte, en général, même s'il y a beaucoup de mortalité, la plupart des familles, des enfants, on va dire classe moyenne ou pas, arrivent à s'échapper. Et d'ailleurs, il y a eu des millions de déplacés en Ukraine, en interne ou alors réfugiés en Europe. Et ils restent malheureusement dans ces lieux de siège à venir, soit des populations souvent malades, quelques combattants, quelques soignants, souvent des populations âgées aussi sans relais de solidarité. Voilà, et donc ce sont ces personnes-là en général qui payent le tribut. À Gaza, ça n'a pas été ça. Ça a été l'entièreté des familles, de la population, hommes, femmes, enfants, qui se sont retrouvés prisonniers de longue date, mais qui n'ont pas pu fuir, à part quelques milliers de personnes, mais on a toujours 2,2 millions de personnes qui sont sur place. Et donc, sur un territoire de 40 km de long sur 8 de large, hyper dense en termes de population aussi, sur un territoire qui est de fait une prison à ciel ouvert, il a été très facile, malheureusement, de pouvoir entraîner une telle dévastation. Et on parle de 50 000 morts, mais c'est probablement beaucoup plus, parce qu'on ne parle pas de toutes les personnes qui sont restées sous les décombres ou celles qui meurent à petit feu par défaut de soins sous leur bâche en plastique à Dar al-Bala ou à Mawazi notamment. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité de Gaza, cette cruauté infligée à une population qui est prise au piège, qui se fait bombarder et qui manque de tout, d'eau, de nourriture et de soins.
prise au piège, ne pouvant pas sortir de Gaza, mais prise au piège aussi à l'intérieur de la bande de Gaza. Julia Grignon, pour reprendre cet adjectif d'une violence cadastrale, Jean-Pierre Filou nous a raconté l'administration de l'horreur de plus en plus absurde. Lundi, je reprends les mots de son livre, le 1er décembre 2023, à l'issue d'une trêve d'une semaine, Israël exhume des plans de réaménagement de l'enclave datant d'un demi-siècle et la bande de Gaza se voit divisée en blocs numérotés sans la moindre cohérence, les blocs 1 et 2 jouxtant les blocs 20 et 2363, le bloc 60 côtoyant le 219, le camp de Nousserat scindé entre les blocs 662 et 2325. C'est sur cette base que la population est déplacée en une cascade d'ultimatums, de case en case, en une marelle folle. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pu déjà exister dans des guerres précédentes? Et qu'en dit le droit international humanitaire?
Non, à ma connaissance, ça n'a pas existé, en tout cas pas dans les termes que vous décrivez. Et ce que vous dites là mobilise plusieurs notions juridiques. La première, c'est l'occupation du territoire. Maintenant, ça ne fait plus aucun doute. Israël est une puissance occupante sur le territoire palestinien occupé. Et ça, c'est important. La Cour internationale de justice le formule comme ça. C'est le territoire palestinien qui est discontinu géographiquement, mais qui forme une seule entité politique. Donc c'est aussi la Cisjordanie, Jérusalem-Est. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, Israël est une puissance occupante. Et justement ici, ça montre les limites de l'occupation en droit international humanitaire. Lors d'un conflit armé, une puissance peut administrer un territoire, exercer son autorité sur ce territoire, mais elle doit y conserver la vie publique telle qu'elle l'a trouvée dans toute la mesure du possible. C'est évidemment pas ce qui est en train de se passer. Donc là, on a non seulement une puissance occupante qui a tout verrouillé depuis des dizaines d'années, mais qui en plus là aujourd'hui franchit un pas supplémentaire et donc finalement... l'occupation devient illégale, et ça, la Cour internationale de justice l'a dit. Ensuite, vous avez parlé des évacuations. En droit international humanitaire, il est prévu que la population civile doit être mise à l'abri des hostilités. Et là, on tombe dans, justement, cette instrumentalisation et dans la finesse qu'il faut avoir dans l'analyse du droit international humanitaire. Donc oui, il faut mettre les populations civiles à l'abri des bombardements, à l'abri des hostilités. On peut procéder à des évacuations, mais ça doit toujours être des mesures de dernier recours. Et surtout, ces mesures d'évacuation, elles sont très encadrées. Donc non seulement il faut accueillir les populations, par exemple, dans des conditions d'hygiène et de salubrité qui sont conformes aux standards humanitaires. Bien entendu, ça doit être dans des zones dans lesquelles ces populations ne doivent pas attendre à être attaqué, et il faut que ces populations puissent, dès que le danger a disparu, être réintégrées et revenir chez elles. Aujourd'hui, non seulement ces populations, elles font l'objet d'occupation, d'évacuation pardon, multiples, il y a, je crois, 90% du territoire qui est sous ordre d'évacuation, les zones dans lesquelles ces populations sont évacuées ne sont pas des zones sûres, il y a des frappes dans ces zones, voire des zones qui ont été désignées comme étant sûres, finalement, ne le sont plus, les conditions d'accueil des populations ne sont pas satisfaisantes, et pendant que ces populations sont déplacées, leurs bâtis, leurs maisons sont détruites. Et donc, elles ne pourront pas rentrer chez elles. Et donc, vous voyez qu'avec ces plans, on a une multiplicité de violations du droit international humanitaire.
Sur la destruction des hôpitaux, est-ce que, Jean-François Corti, vous avez des exemples précis à nous donner d'hôpitaux qui ont été détruits? Alors, avec toujours l'argument que donne Israël à l'appui de ses frappes, qui est de dire que c'était, alors, que ce soit une école bombardée, c'était un centre de commandement et de contrôle du Hamas, un hôpital détruit, cachait des tunnels du Hamas, les journalistes seraient de faunés du Hamas, etc., etc. Sur les hôpitaux, le fait que l'armée est parfois israélienne, faire circuler des vidéos sur lesquelles on voit que derrière un appareil d'IRM, par exemple, elle sort des fusils et elle dit « Regardez, c'était une planque du Hamas ». Que dit le droit international humanitaire là-dessus? Et qu'est-ce que vous en faites, vous, de ces informations-là?
Alors, sur le droit précisément, je laisserai Julia, qui est beaucoup plus technique, mais y compris dans ce genre de situation, vous devez avoir une mesure proportionnée. Et vous n'êtes pas en situation, lorsque vous êtes une force non seulement occupante, mais qui veut, par exemple, attaquer un hôpital qui serait occupé par une partie adverse, vous avez à respecter une proportion dans la réponse et pas tout défoncer, en fait. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est, je l'évoquais, un nombre de morts démentiel, disproportionné. C'est 400 humanitaires qui ont été tués depuis 18 mois. Ça s'est jamais vu dans les conflits contemporains. C'est une majorité de Palestiniens, de l'UNRWA, mais nous, par exemple, Médecins du Monde, qui avons encore aujourd'hui une centaine de personnes sur le terrain, des Palestiniens. On a perdu un médecin et toute sa famille l'année dernière, un médecin qui a été formé en Angleterre, qui travaillait en France et qui a ensuite travaillé avec nous depuis plusieurs années, qui coordonnait nos opérations mobiles, et il est mort sous les bombes, et une partie de sa famille qui était venue essayer de le chercher sous les gravats, est mort aussi après un deuxième bombardement. On est sur une destruction, une mise à plat du système de santé. C'est des centaines de postes de santé, des dizaines d'hôpitaux qui ont été détruits avant le 7 octobre 2023. On comptait 36 hôpitaux environ. Aujourd'hui, il y en a une dizaine, quinzaine qui restent fonctionnels, mais avec beaucoup de problèmes de ressources humaines, avec des personnels qui sont fatigués, beaucoup de manque de médicaments antalgiques, notamment ou autres anesthésiants. Vous avez un manque de fuel pour aussi faire tourner les groupes électrogènes. Donc le système de santé, il est à plat. Et puis simplement, si je peux dire une dernière chose, c'est que nous avons fait, par exemple, une enquête nutritionnelle sur une cohorte de 10 000 enfants l'année dernière, entre juillet 2024 et avril 2025. Sur nos opérations à Dar Arbala notamment, mais aussi à Gaza City et à Rafah. On a montré une forte corrélation entre l'intensité du blocus et les taux de mortalité, avec aujourd'hui des taux autour de 20 à 25% de malnutrition pour des enfants de 6 mois à 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes. Ces taux s'abaissent à 2% lorsqu'il y a le cessez-le-feu début de l'année. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, et de manière assumée, je m'arrêterai là, il y a une instrumentalisation de la faim, de la soif, de la destruction du bâti par les autorités israéliennes comme arme de guerre, et cela est absolument contraire au droit international humanitaire.
Pour donner un exemple précis, parce que ça reste abstrait, cette image d'hôpitaux bombardés, on peut en prendre un en particulier, l'hôpital Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza, quand en octobre 2024, l'armée israélienne lance une nouvelle phase de la guerre pour vider de sa population le nord de Gaza. Il y a d'abord des tirs israéliens qui détruisent du matériel de secours livré par l'OMS et le générateur d'oxygène, entre autres, est endommagé. Trois jours plus tard, de nouveaux tirs détruisent du nouveau matériel de l'OMS. Ensuite, du 3 au 5 novembre, c'est très précis, on a les éléments, le service pédiatrique, puis les citernes d'eau sont endommagées par les frappes. Et enfin, le 27 décembre, assaut final, les militaires israéliens ordonnent par haut-parleur aux patients et aux employés d'évacuer l'hôpital. Ils entrent, des incendies se déclarent partout, l'OMS s'en alarme sur son compte Twitter, des soldats israéliens se filment en train de s'emparer de dossiers, de classeurs, de documents de toutes sortes dans le service des archives avant de les brûler. Alors quoi, Julia Grignon, quand Israël dit qu'il s'agissait d'une planque du Hamas, qui pour exiger les preuves ?
Alors, les attaques contre les hôpitaux, elles sont emblématiques de la manière dont le droit international humanitaire est mis à mal aujourd'hui, et elles montrent un très grand nombre de choses. D'abord, quand Jean-François ne se prononce pas sur les attaques, mais elle renvoie vers moi, ça montre que il y a une technicité, et c'est vrai que c'est technique, parce qu'un hôpital est un bien qui est spécialement protégé en droit international humanitaire, en raison de sa fonction humanitaire, et qui donc bénéficie d'une protection spéciale, et qui ne peut être attaqué que s'il est utilisé pour commettre un acte nuisible à l'ennemi, et s'il est devenu un objectif militaire. On peut faire des colloques de 3 heures sur cette question-là. Mais l'évidence, c'est qu'on ne tire pas sur un hôpital, sauf cas extrême.
Est-ce que ça montre que les armes pourraient être celles de soldats qui ont été blessés et qui sont soignés dans l'hôpital? Ça, le droit le dit aussi, la Convention de Genève.
Oui, le personnel humanitaire doit veiller à ne pas faire rentrer d'armes ou de combattants valides dans un hôpital, justement pour lui conserver sa protection. Mais il ne faut pas se réfugier derrière cette technicité pour ensuite ne plus développer son esprit critique ou pour justement entretenir des violations du droit international humanitaire. Parce que finalement, s'engager dans ce narratif qu'il y a des armes dans ces hôpitaux, qu'il y a éventuellement des membres du Hamas qui y sont, et que cela pourrait justifier les attaques contre les hôpitaux, finalement, ça entretient l'idée qu'on pourrait attaquer des hôpitaux. Or, très vite, sur l'analyse qu'on peut faire de l'exemple que vous avez donné, même si on a des membres du Hamas valides qui se trouvent dans l'hôpital, même si cet hôpital est utilisé pour y cacher des armes ou pour donc commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Et même si, pour cette raison, l'hôpital est devenu un objectif militaire, d'abord, seule la zone qui sert au Hamas de l'hôpital peut faire l'objet d'une attaque, c'est très circonscrit. Et ensuite, il faut, Jean-François l'a rappelé, utiliser les critères de proportionnalité et de précaution. Et donc, il faut utiliser des moyens qui vont faire le moins de dommages possible à l'hôpital. Et il faut prendre en considération pour ça le fait qu'à l'intérieur de cet hôpital se trouvent des personnes protégées. Les blessés et les malades sont protégés en droit international humanitaire, quelle que soit leur armée d'appartenance. Le personnel humanitaire, bien entendu, est un personnel protégé en droit international humanitaire. Et vous avez des personnes civiles qui se réfugient dans les hôpitaux parce qu'elles pensent qu'elles vont y être à l'abri. Donc quand on mène une attaque contre un hôpital, même s'il est devenu un objectif militaire, on doit être particulièrement précautionneux. Je termine juste sur un aspect, parce qu'en ce moment, il y a cette question des hôpitaux, elle est débattue dans le cadre d'une initiative mondiale pour renforcer le respect du droit international humanitaire. humanitaire. Il se trouve que j'ai participé à une conférence d'experts sur cette question. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas un État, il n'y a pas une ONG, il n'y a pas un universitaire qui veut changer la règle telle qu'elle existe aujourd'hui. Simplement, il faut faire respecter cette règle.
Et même quand l'armée israélienne n'accuse pas un hôpital d'être lié aux combattants du Hamas, elle ne l'épargne pas pour autant, comme l'hôpital Al-Aouda à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, à l'automne 2023, où des soignants ont été abattus d'une balle dans la tête. Le droit international humanitaire n'est pas un menu à la carte à appliquer de manière sélective, a dit récemment Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
En tant que puissance occupante, Israël a des obligations sans équivoque en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Laissez-moi être clair. Nous ne participerons à aucun arrangement qui ne respecte pas pleinement les principes humanitaires, humanité, impartialité, indépendance et neutralité. L'accès humanitaire sans entrave doit être garanti.
Antonio Guterres, le 9 avril dernier, Jean-François Corti, pourquoi ne pas faire confiance, après tout, à cette fondation humanitaire de Gaza, la GHF, fondation américano-israélienne dont on a longuement parlé dans cette série, comme un gage donné par Israël, par ailleurs, à la communauté internationale, de ce qu'il s'occupe de nourrir les civils? Pourquoi cette méfiance de toutes les ONG, y compris la vôtre, vis-à-vis de cette fondation?
On voit qu'on est au cœur d'une instrumentalisation de la raison humanitaire, et c'est pas nouveau dans de nouveaux conflits, et c'est pas nouveau sur le conflit israélien ou palestinien à Gaza ces derniers mois. Déjà l'année dernière, on avait eu une proposition américaine pour, soi-disant, rompre le blocus de l'armée israélienne, de faire un corridor maritime pour faire venir des bateaux, depuis Chypre notamment, débarquer de l'aide sur une barge devant la bande de Gaza. Ça a été un fiasco opérationnel total. Cette opération a duré entre avril et juillet 2024 sans aucun impact sur l'aide. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce contexte-là? On voit comment l'aide est un outil de dépolitisation des contextes, avec une instrumentalisation de la raison humanitaire, notamment par les Américains, qui se sont réappropriés la sémantique, l'opérationnalité de l'action humanitaire, pour pas être dans le vif et le dur du sujet, qui est pourquoi cette aide est nécessaire, et pourquoi passer par la mer, alors que Gaza n'est pas une île, et qu'on peut faire entrer des tonnes de matériel, déjà prépositionné, notamment à Al-Arish en Égypte, par la route. Simplement, on voit que les Américains manipulent l'aide humanitaire, alors même qu'ils soutiennent une armée qui est responsable d'un blocus sur lequel elle veut intervenir. Donc on marche sur la tête et on voit bien cette instrumentalisation. Aujourd'hui, en mettant en avant la GHF, donc la Fondation Humanitaire pour Gaza, c'est un organisme qui est tenu par des miliciens et des mercenaires américains sous supervision de l'armée israélienne. Ils sont censés accompagner des hubs logistiques. C'est comme ça que le COGAT, hein, l'agence israélienne de lien avec les Nations Unies et les ONG, présente le tableau opérationnel. Ça a déjà commencé avec des dispositifs qui sont censés distribuer de la nourriture qui rentre par grâce à des camions 50 à 60 qui passent par Kerem Shalom. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui énormément de morts lors de ces distributions. Il n'y a aucune sécurité qui est assuré. Et cet organisme ne respecte pas, comme on vient de l'entendre sur votre son, les principes de la raison humanitaire contemporaine, que sont la partialité, l'indépendance, la neutralité notamment. Et ça, nous met dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Dans le même temps, vous avez le Premier ministre qui annonce qu'il va y avoir une reconquête totale de Gaza. Il y a le ministre des Finances, M. Smotrich, qui annonce que les 2 millions de personnes qui vivent dans Gaza vont être déplacés, déportés, concentrés, c'est ces termes, sur Rafah, avant d'être potentiellement expulsés en dehors de la bande de Gaza pour réaliser le plan de Riviera du Moyen-Orient de M. Trump. Donc, on crée les conditions d'avoir des organisations dites humanitaires, et la GHF n'a rien d'humanitaire, qui vont être en situation d'accompagner ce qui s'annonce être une déportation massive de population. Et ça, c'est des choses que des organisations comme Médecins du Monde, comme les Nations Unies et autres ne peuvent pas cautionner. On ne peut pas être des opérateurs d'une déportation massive de population, et cela, nous l'avons signifié. Donc, il faut préciser qu'on est en pleine instrumentalisation de l'aide, cette que GHF, donc cette fondation humanitaire pour Gaza, n'est qu'une caution morale pour, vous l'avez dit, montrer de la part des autorités israéliennes à la communauté internationale qu'on se soucie un petit peu de la question humanitaire et de la survie des civils. Mais encore une fois, c'est très peu de camions qui rentrent, c'est une goutte d'eau dans l'océan, et cela permet de porter à son terme ce qui est annoncé, c'est-à-dire une politique coloniale de déplacement de population assumée.
Mais si le Hamas détournait l'aide, comme le dit Israël depuis le début, il fallait bien trouver une solution. On sait que le Hamas n'a rien fait pour protéger la population de Gaza des représailles israéliennes. Juste après le 7 octobre 2023, les combattants ont perpétué leur massacre terroriste, puis ils ont filé se réfugier dans les tunnels où ils avaient déjà amassé des stocks d'eau, de vivres, de médicaments, de tout ce qu'il fallait pour eux rester terrés pendant que les Palestiniens de Gaza, qui n'avait rien à voir avec le Hamas, se faisait déjà, voyait les fusils et les chars israéliens arriver, les hélicoptères et les drones, etc. Donc, Israël dit aujourd'hui que l'aide était détournée par le Hamas. Quels éléments vous pouvez donner pour dire que ça n'était pas le cas? Et quels éléments vous pouvez aussi apporter au gouvernement israélien qui dit, de toute façon, l'aide, elle était déjà politisée avant la GHF, puisque les ONG ont une mission de plaidoyer et qu'elles ne respectent pas le principe de neutralité du droit international humanitaire.
Les ONG respectent les principes d'impartialité aussi et d'indépendance, notamment, et des organisations comme la mienne fondent leur mission sur de l'opérationnalité et du plaidoyer, c'est-à-dire d'essayer de faire changer, d'être acteur du changement social ou dénoncer du non-respect des droits fondamentaux. Au lendemain des atrocités du 7 octobre, nous étions prêts, nous, à intervenir, comme MSF et d'autres, côté israélien, pour prêter main forte à un système de santé et aux autorités israéliennes, notamment pour la prise en charge des blessés, ou assurer notamment tout le travail de deuil et avec l'impact psychologique que ça a eu, ces attentats atroces sur la société israélienne. Bon, on n'a pas fait appel à nous parce que le système de santé israélien est très bien équipé et arrive à gérer. Mais du côté palestinien, comme vous le savez, cela n'est pas le cas, donc nous avons une plus-value par rapport à un système de santé, une tension, une incapacité de réponse à des besoins par rapport à la situation, notamment à Gaza. Et simplement, sur ces questions de détournement, c'est pas spécifique au contexte de Gaza qu'on puisse voir de l'aide détournée. Ça s'est vu dans beaucoup de contextes, et il faut comprendre à Gaza que vous avez l'entièreté de la population qui a été déplacée, 80% de la destruction du bâti. En termes de force régalienne, de force police, il n'y a pratiquement plus rien, même si le Hamas peut rester d'une certaine manière une menace à un moment donné sur différents éléments sécuritaires. Mais le contexte de pénurie assumé depuis 16 ans, puis depuis 18 mois, où il n'y a pratiquement pas grand-chose qui rentre, depuis 2 mois, pratiquement plus rien qui rentre, à part quelques camions, crée les conditions d'une pénurie pour le développement de groupes mafieux ou pseudo-mafieux. Donc le Hamas a probablement sa part dans certains détournements d'aide, comme d'autres groupes pseudo-mafieux, dont certains, on le sait aujourd'hui, ont été soutenus par les autorités israéliennes, et c'est le Premier ministre qui l'a annoncé. Et nous avons quand même réussi un petit peu à travailler, toujours en tension, avec beaucoup de risques de shortage, notamment en médicaments et autres. Depuis on a pu faire entrer que 4 camions depuis 18 mois, alors qu'on a des tonnes de matériel prépositionné. C'est pas en bloquant l'aide, mais c'est en inondant le territoire d'aide qu'on arrive à contrecarrer des risques de détournement.
Et je précise aussi que le gouvernement israélien a armé des milices à Gaza, notamment celles qui pillaient les convois. On avait abordé ce sujet lundi dans Culture Monde. Ce que je ne savais pas, je dois le dire, c'est que l'ancien ministre et allié de Benjamin Netanyahu, Avigdor Lieberman, avait confirmé cette information 2 jours plus tôt. Julia Grignon, sur cette question du blocus, c'est vrai qu'il y a eu pendant 2 mois, entre début mars et la fin mai, un blocus total, plus aucun camion ne pouvait entrer avec de l'aide. Alors ça s'est assoupli, notamment parce qu'Israël dit qu'avec cette fondation humanitaire pour Gaza, on peut refaire circuler l'aide. Ça peut paraître tout à fait cynique et désincarné d'en parler en ces termes, mais est-ce que le blocus est illégal d'un point de vue du droit international?
Alors non, le blocus, c'est une opération militaire qui est parfaitement licite en droit international humanitaire. Un État, dans le cadre d'un conflit armé, peut décréter un blocus. En revanche, et donc ça signifie empêcher tout bien, toute personne d'entrer par la mer, par les airs, sur un territoire donné. En revanche, les conséquences du blocus ne doivent pas être illicites. Et si une population qui se trouve sur ce territoire qui fait l'objet du blocus est insuffisamment approvisionnée, Et là, je ne parle pas de famine. Je dis simplement insuffisamment approvisionné. Ce sont les termes du droit international humanitaire. Alors, la puissance occupante, la puissance qui exerce ce blocus, a la responsabilité, non pas de laisser des agences humanitaires délivrer de l'aide humanitaire, mais elle-même de s'assurer de l'approvisionnement de la population qui se trouve sur ce territoire. Elle doit aussi s'assurer du fonctionnement des hôpitaux. Si elle n'est pas en mesure de le faire, alors elle doit permettre à des organismes humanitaires de pénétrer sur le territoire. Et là, il y a notamment sur la fondation humanitaire pour Gaza, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et c'est là aussi qu'on voit l'articulation entre le droit humanitaire et l'action humanitaire, puisque comme c'est la puissance occupante qui doit elle-même normalement subvenir aux besoins de la population civile, dans le droit humanitaire, rien ne nous dit par quels moyens elle doit le faire. Si elle veut recourir à une fondation privée pour le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que l'aide, elle doit être distribuée de manière impartiale, en toute indépendance, et donc respecter les principes de l'action humanitaire. Et lorsque donc ça n'est pas le cas, eh bien, il faut que ce soit des agences humanitaires qui délivrent de l'aide sans entrave, selon les critères fixés par le droit.
Et puis on a vu des scènes de mort aussi de ces Palestiniens arrivant, convergeant vers ces nouveaux centres et hubs, comme vous disiez, Jean-François Corti, de distribution d'aide alimentaire qui se faisait tirer dessus. Alors l'armée israélienne a d'abord démenti les tirs sur les Palestiniens qui marchaient jusqu'à un centre de distribution de l'aide, puis elle a reconnu des tirs de sommation, puis enfin elle a reconnu avoir visé sur des personnes dont elle dit qu'elles constituaient une menace pour ses soldats. Le récit israélien a été flou de jour en jour sur cette question-là. En tout cas, l'aide humanitaire a parvenu après 2 mois d'embargo pendant lesquels des centaines de milliers de tonnes de nourriture sont restées bloquées à la frontière, tout comme des médicaments, de l'eau, des tentes du 2 mars à la fin mai.
Pour ceux qui sont tués et ceux dont les voix sont réduites au silence, de quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin? Allez-vous enfin agir pour mettre fin au génocide en cours et faire respecter le droit international humanitaire? Ou allez-vous plutôt choisir de dire « nous avons fait ce que nous pouvions » Monsieur le Président, cette dégradation du droit international est délétère et contagieuse. Elle remet en cause des décennies de progrès en matière de protection des civils contre les actes inhumains et la violence de ceux qui pensent pouvoir agir en toute impunité hors du cadre légal. L'humanité, le droit et la raison doivent prévaloir. Ce conseil doit prévaloir.
Tom Fletcher est coordinateur des secours d'urgence de l'ONU. Il s'exprimait devant les membres du Conseil de sécurité. Il interpellait les membres du Conseil de sécurité au mois de mai sur ce mot de génocide. Et c'est vrai qu'ici, dans Culture Monde, depuis le début de la semaine, on a profité des 4 heures devant nous pour raconter, dérouler, qualifier la guerre qui a cours à Gaza aujourd'hui. Le mot de génocide n'a pas été prononcé, tout au plus guerre génocidaire. Mais ce mot si lourd de sens et que Jean-Pierre Filu, par exemple, assume ne pas vouloir utiliser parce qu'il dit qu'il veut amener du débat raisonné sur un sujet extrêmement clivant et que le mot génocide va faire fuir tous ceux qui ne voudront pas débattre par la suite. Jusqu'où faut-il prendre d'infinies précautions pour l'utiliser, Julia Grignon ?
Alors, le mot génocide, il a différents sens et principalement aujourd'hui, dans le débat public, il a un sens juridique et un sens politique. Et il faut distinguer, je crois, ces deux sens. Lorsqu'on parle du génocide en termes juridiques, c'est un crime à prendre avec beaucoup, là aussi, de précautions, parce que c'est un crime dont il est très difficile de rapporter la preuve, puisque c'est l'intention de détruire en tout ou partie un groupe spécifique. Et donc, il faut pouvoir prouver cette intention de détruire en tout ou partie ce groupe.
Mais les ministres israéliens eux-mêmes ne se privent pas d'utiliser des mots comme les animaux pour parler des Gazaouis, pour dire qu'il faut absolument couper l'électricité partout. Même cet ancien général qui est à l'origine du plan des généraux que Benjamin Netanyahou cite régulièrement et qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une épidémie à Gaza parce que l'effondrement de Gaza irait plus vite. Donc il y a des preuves, ne serait-ce que rhétoriques, dans les discours.
Et non seulement, donc, il faut cette intention qui doit être démontrée par un certain nombre d'éléments qui peuvent être des déclarations des autorités, mais il faut ensuite qu'il y ait des actes qui soient commis et qui soient en lien avec cette destruction du groupe. Donc, des meurtres, de la torture, la soumission du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa mort, etc. La Cour internationale de justice, dès janvier 2024, a dit qu'il y avait un risque que la situation puisse être qualifiée de génocide et que pour cette raison, comme il y a une convention qui prévoit la prévention et la répression du crime de génocide, il fallait tout faire pour empêcher que cette situation puisse se produire. Mais ces actes en droit sont aussi qualifiables d'autres types de crimes internationaux, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Et en droit, il n'y a pas de gradation entre les crimes. Ce sont des crimes internationaux qui sont dans le statut de la Cour pénale internationale et qui permettent à ce que des individus qui se sont rendus responsables de ces crimes soient poursuivis. Et donc, il n'y a pas d'échelle dans l'horreur des crimes qui peuvent être commis, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide. Ensuite, ce terme, bien entendu, il est utilisé à des fins politiques, mais là, il est vidé finalement de son sens juridique. C'est-à-dire qu'on l'utilise parce que dans l'opinion publique, c'est le crime des crimes, c'est donc le crime le plus grave, et c'est en plus un crime qui a fait l'objet de déclarations de reconnaissance très spécifiques. Il y a le génocide juif, le génocide arménien, il y a le génocide des Tutsis au Rwanda, et donc c'est un crime qui finalement fait l'objet
au Cambodge, à Srebrenica.
Effectivement, et donc c'est spécifiquement encadré. Et donc il y a toujours beaucoup de précautions qui sont prises à utiliser ce terme. Et j'entends Jean-Pierre Fidieu quand il dit que il faut faire attention à l'utilisation de ce terme parce qu'effectivement ça peut invisibiliser toutes sortes d'autres comportements qui sont commis et que finalement on se focalise sur une notion alors qu'il y a plein d'autres actes inhumains qui sont commis qui éventuellement ne répondent pas à cette définition. Et je crois, parce que ça mobilise aussi l'histoire, la notion de génocide, il faut aller lire la Tribune qu'a publié récemment Vincent Duclerc où justement il montre l'articulation entre le droit et l'histoire sur cette notion de génocide.
Il dit plein de choses, Vincent Duclerc, d'ailleurs, dans cette tribune ou dans différents entretiens qu'il a pu donner, notamment au 1, il dit que la Convention sur le génocide comprend un volet majeur de prévention qui dit bien, en effet, qu'un génocide réside dans l'intention de détruire un groupe en tout ou en partie, mais il dit aussi que la préparation en fait partie. Il dit qu'un massacre n'est pas génocidaire s'il relève d'une riposte, s'il ne cible que les auteurs d'une agression. Et là, on ne peut pas s'empêcher de repenser à tout ce que vous nous avez dit depuis le début sur le fait que les civils sont massivement visés. Il dit aussi que les génocidaires créent un univers évolutionnaire racial par lequel une race supérieure, un peuple majoritaire, extermine pour s'accomplir et se sauver. Jean-François Corti, pour déterminer le génocide, il y a trois types d'acteurs. Les juristes, vous êtes là, Julia Grignon, les historiens qui synthétisent la parole des témoins et la démarche juridique et les témoins. De quelle responsabilité vous sentez-vous investi en tant que témoin et acteur de l'humanitaire sur ce sujet-là?
C'est un sujet difficile parce que pour des acteurs comme Médecins du Monde, nous avons des opérateurs sur le terrain, des humanitaires, et donc il y a une question de sécurité qui se pose pour nous et qui n'est pas posée de la même manière pour des organisations comme Human Rights Watch ou Amnesty qui peuvent prendre souvent des positions beaucoup plus tranchées parce qu'ils n'ont pas forcément d'équipe sur le terrain. Juste la question génocidaire, vous l'avez rappelé, elle est éminemment politique, elle est utilisée à tort et à travers. Aujourd'hui, Poutine accuse l'Ukraine d'actes génocidaires sur sa population dans le Donbass. Le président ukrainien accuse Poutine d'avoir des pratiques génocidaires et sur le conflit israélo-palestinien, chacun des parties prenantes au conflit aussi instrumentalise ce terme. Pour une organisation comme la mienne, qui n'est pas une organisation de juristes, c'est difficile de se prononcer, sachant, comme l'a rappelé Julia, que c'est un mécanisme de définition du crime de génocide qui peut prendre de nombreuses années. Ceci dit, sur le terrain, nous, ce que l'on voit, c'est des crimes de masse. C'est l'aide empêchée de longue date. C'est la création des conditions de vie indignes avec un impact sur la santé physique et mentale des populations. Donc, de notre point de vue, nous, on ne peut que corroborer les conclusions d'organisations comme Amnesty, comme Human Rights Watch, qui parlent de génocide en cours.
Donc, l'effacement des faits par destruction aussi, l'effacement intentionnel du patrimoine, car la Palestine aurait moins de 100 ans d'histoire, comme l'a dit Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Bombardement d'un centre, pardon, mais j'ai appris ça, je ne le savais même pas, je l'ai appris hier, un centre de fécondation in vitro qui a été bombardé en décembre 2023 déjà sur l'ONU, lequel l'ONU a enquêté, qui a détruit 4000 embryons.
Ouais. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui vont dans le sens d'une objectivation probable. Mais ce qui est important aussi, ce qui a été rappelé, c'est de rappeler que il faut pas forcément s'étendre sur la qualification ou pas de cette situation, dans la mesure où il y a, il me semble, suffisamment d'éléments pour définir une gravité intolérable et un impact sur les civils qui est absolument inacceptable. Et en ce sens, quand bien même on serait sur une position de génocide ou pas, et on ne le saura pas tout de suite, dans la mesure où il y a un risque plausible, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice à plusieurs reprises, les États signataires des conventions qui préviennent ou qui luttent contre les crimes de masse, notamment comme la France, doivent tout faire pour empêcher ce risque plausible de génocide. Et ce que l'on voit de notre point de vue aujourd'hui, c'est que ces acteurs-là, dont la France, dont une partie de l'Europe, ne sont pas assez engagés pour prendre des actions tangibles. On a vu l'Europe, il y a la semaine dernière, prendre un 17e train de sanctions contre Poutine, et ils ont raison de le faire dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine qu'ils mènent de manière totalement insupportable. Et dans le même temps, et c'est ça qui est dramatique aussi dans la contemporanéité de deux conflits, que sont le conflit ukrainien et russe et le conflit israélo-palestinien, c'est un deux poids deux mesures entre une Europe qui prend le droit international humanitaire comme boussole universelle de défense des droits fondamentaux pour l'imposer à Poutine qui commet des crimes de guerre et des crimes de masse en Ukraine, et on ne porte pas la même mesure et le même engagement sur ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien. Donc aujourd'hui, on n'arrête pas un génocide probable avec des gesticulations communicationnelles. On peut s'indigner comme le fait M. Macron, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut des actions tangibles, ça peut être des pressions économiques par la remise en question d'accords, notamment entre l'Europe et l'État d'Israël sur des enjeux économiques. C'est quand M. Netanyahou passe sur le territoire français, ben ne pas lui permettre de survoler le territoire, parce que quand on est signataire de la CPI, on doit respecter ses engagements. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans une configuration où tout est mis en place pour des pressions tangibles sur le régime israélien qui commet ces crimes.
Alors que tous les pays du monde ont l'obligation de respecter le droit humanitaire, mais aussi de le faire respecter, Julia Grignon.
Absolument, c'est même l'article 1 commun aux 4 conventions de Genève de 1949, donc c'est vraiment la règle fondamentale. Non seulement les États doivent respecter le droit international humanitaire dans leurs opérations à l'égard de leurs propres forces, mais ils doivent également le faire respecter. Et le faire respecter à l'intérieur de leurs propres armées, mais aussi à l'égard de tout autre État dans toutes circonstances dans le monde. Et donc, ça signifie que, par exemple, les États comme la France, qui ont des relations diplomatiques, politiques, économiques avec Israël, doivent utiliser tous les leviers pour faire respecter ce droit. Et donc, pour faire en sorte de ramener du respect du droit international humanitaire dans la bande de Gaza. Ça signifie aussi avoir des déclarations et des prises de position fortes. Et ça signifie aussi, quand on est du côté du système multilatéral et du côté du système du droit international, d'avoir des positions qui vont défendre le droit et le multilatéralisme. Ça veut dire aussi donc dénoncer des situations comme étant insupportable, et c'est très bien, mais ça veut dire aussi agir, et donc avoir des actes tangibles pour mettre en œuvre cette obligation de faire respecter. Et donc, ça signifie ne pas permettre à des bateaux d'accoster à Marseille pour charger des armes qui vont ensuite être à destination d'Israël, quand on sait que ces armes peuvent être utilisées pour commettre des crimes internationaux. C'est interdit par le traité sur le commerce des armes auquel la France est partie.
Ce bateau qui contenait des pièces pour fusils mitrailleurs qui devait partir du port de Marseille pour Haïfa, pièces fabriquées par l'entreprise marseillaise Eurolinx, et que finalement l'action des dockers, leur blocage, ont finalement retenu à terre. Le bateau est parti, mais pas les pièces, mais il y en a d'autres de ces bateaux.
Mais ce que je trouve aussi très intéressant ici, c'est qu'on parle du droit international comme quelque chose de vaporeux, d'insaisissable, dont on ne sait plus comment le faire respecter, etc. Mais là, ce sont des dockers, donc c'est la société civile qui, à un moment donné, dit non et, d'une certaine manière, met en œuvre le droit international humanitaire en empêchant ce chargement. Et c'est notre responsabilité à toutes et tous, avec nos moyens. C'est les autorités dont on dépend, mais c'est aussi nous, toutes et tous, de se saisir de ce droit et d'en exiger le respect.
La société civile qui ne peut pas se substituer à la volonté politique malgré toute sa bonne volonté, la société civile, la justice internationale non plus ne peut pas se substituer à la volonté politique. Néanmoins, la Cour internationale de justice se donne un vrai rôle à Gaza.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le peuple palestinien fait face à un génocide. Et votre arrêt précédent à vous, Cour internationale de justice, n'a pas réussi à les en protéger. Nous avons entendu des affirmations selon lesquelles Israël faisait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la mort de civils, alors qu'il disait exercer ses droits à la légitime défense. Mais les preuves doivent être prises en compte. Il n'existe aucun argument crédible selon lequel cette catastrophe n'est pas réelle.
Il y a un an, l'avocat de l'Afrique du Sud, Vaughan Law, demandait au juge de la Cour internationale de justice de faire cesser l'opération militaire d'Israël à Rafah. Pretoria, qui porte cette accusation de crime de génocide, a depuis été rejointe et soutenue dans cette démarche par 15 États. La procédure est toujours en cours. Bonjour Jean-Marc Sorel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En attendant de rendre un avis, la Cour internationale de justice peut demander des mesures dites conservatoires, des mesures d'urgence, en l'occurrence pour empêcher d'éventuels actes de génocide. Est-ce qu'Israël est tenu de prouver quoi que ce soit à la Cour internationale de justice depuis que celle-ci lui a demandé de prendre des mesures conservatoires ?
Oui, alors il faut bien distinguer deux choses différentes concernant la Cour internationale de justice qui s'occupe des États, contrairement à la Cour pénale qui, elle, s'occupe des individus, les deux sièges à la haie. C'est que cette Cour internationale a une compétence contentieuse et consultative. Donc, dans le cadre de la compétence contentieuse, elle va juger donc des États, et dans le cadre de la compétence consultative, elle rend des avis juridiques sur des questions générales, mais qui ont un poids important. Alors, dans le cadre contentieux, effectivement, l'Afrique du Sud a porté une affaire contre Israël en décembre 2023, et à la suite de ces affaires, elle a demandé donc à plusieurs reprises des mesures conservatoires, comme on dit, des mesures provisoires qui permettent d'interrompre le conflit, donc en attendant le jugement au fond. Il y a eu trois séries de mesures conservatoires en janvier, en mars et en mai 2024, et à chaque fois, donc l'Afrique du Sud a demandé à Israël de respecter les mesures qui avaient été décidées par la Cour internationale de justice, ceci sans aucun succès, puisque Israël a répondu que cette Cour était politisée, qu'elle était même, il faut bien le dire, antisémite, et que donc elle n'avait pas à respecter ces mesures qui ne tenaient pas compte de la légitime défense qu'Israël invoquait donc contre Gaza. Et c'est à cette occasion que la Cour internationale a eu l'occasion de dire qu'il y avait un préjudice irréparable plausible, donc un risque plausible de préjudice irréparable. Elle n'a pas prononcé dans ce cadre-là directement le mot de génocide, puisqu'elle se réserve le droit de juger sur le fond, mais quoi qu'il en soit, donc elle a signifié à Israël que les risques étaient donc tout à fait plausible de préjudice irréparable concernant la bande de Gaza. Donc bon, nous en sommes toujours à ce stade.
Oui, on en est à ce stade. Pardon Jean-Marc Sorel, le temps file et je voudrais vous poser la question de où en est la procédure, parce que la Cour internationale de justice a accordé à Israël un report de 6 mois pour la présentation de ses preuves. Donc l'État hébreu a jusqu'au 12 janvier 2026 pour soumettre ses arguments. C'est une décision qui a été prise après des objections émises par Israël contre apparemment des irrégularités de procédure dans la plainte sud-africaine qui aurait tenté de présenter des preuves qu'on appelle ex parte. Donc c'est quand on soumet des éléments qui accusent Israël de génocide mais sans permettre à Israël d'y avoir accès. Ça veut dire que pour l'instant il n'y a eu aucune audience sur cette question ?
Oui, donc absolument. Effectivement, la procédure dite écrite a été retardée au mois de janvier 2026 pour ce qu'on appelle le contre-mémoire d'Israël. Bon, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud, elle a présenté un mémoire avec donc toutes les preuves qu'elle souhaitait présenter, et Israël a demandé donc un report du délai donc pour janvier 2026. Et ceci, c'est la phase uniquement écrite. Il y aura ensuite une phase orale, donc où il y aura des plaidoiries orales donc présentées à la haie, et c'est uniquement à l'issue de ces deux phases que la Cour internationale, quelques mois plus tard, pourra se prononcer. Donc, à l'heure actuelle, en étant vraiment très optimiste, on ne peut pas attendre une décision avant la fin 2026, si tout va bien.
Donc, l'Afrique du Sud a été rejointe par 15 États dans cette procédure, avec les derniers en date, Belize, la Bolivie, l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, le Chili, la Turquie. Chacun peut donner sa propre version de ce qui est en train de se passer à Gaza, où ils doivent se coordonner, travailler ensemble.
Non, bon, évidemment, il est souhaitable qu'ils se coordonnent. On peut supposer, étant donné les États intervenants, que bon, ils ont une position à peu près commune concernant la Convention sur le génocide. Maintenant, ils ne sont pas dans l'obligation de se concerter, et chaque État peut donner son interprétation par rapport aux faits en cause, donc de la Convention sur le génocide. Je précise d'ailleurs que dans ces intervenants, il y a également la Palestine, qui intervient d'ailleurs à deux titres. C'est un peu complexe et un peu technique, mais bon, qui intervient comme un État, donc qui estime que c'est droits, bien sûr, sont mis en cause, auquel cas la Cour internationale aura à répondre également à une question sensible, à savoir est-ce que la Palestine est vraiment un État, puisque seuls les États peuvent intervenir donc auprès de la Cour internationale de justice.
Alors on en a moins parlé, mais une autre plainte avait été déposée par le Nicaragua contre l'Allemagne pour complicité de génocide. La CIJ a rejeté la requête et prononcé une simple mise en garde. C'était au sujet des ventes d'armes. L'Allemagne est le deuxième plus gros vendeur d'armes d'Israël. Par ailleurs, le 19 juillet dernier, cette Cour internationale de justice se prononçait, c'est un autre sujet, mais se prononçait sur les conséquences juridiques des politiques et des pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Oui, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est font une seule et même entité territoriale d'un point de vue juridique. Et oui, font l'objet d'une occupation par Israël depuis 67. Et cela est encore plus vrai, ce sont les mots de la Cour, depuis les massacres du Hamas. D'autres avis ont été demandés à la Cour depuis. Où est-ce qu'on en est de l'interdiction par Israël de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient? Cette fois, c'est l'ONU qui l'a directement saisi, la Cour internationale de justice. Est-ce que ça s'était déjà souvent fait par le passé?
Oui, alors juste simplement sur l'affaire Nicaragua-Allemagne, la requête n'a pas été rejetée. Hein. Bon, simplement, les mesures conservatoires n'ont rien donné, mais la requête existe toujours. D'accord. Et elle a la particularité d'être une requête pour une convention sur le génocide par deux États qui ne sont pas directement concernés. Bon, l'autre volet de ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire la question de l'avis consultatif, c'est donc l'autre compétence de la Cour, celle qui peut rendre des avis sur des aspects importants, des questions juridiques. À chaque fois, donc pour l'avis qui a été rendu en juillet dernier, et pour celui qui concerne donc les agences onusiennes et donc l'UNRWA notamment, c'est à chaque fois l'Assemblée générale des Nations Unies qui a posé la question. Alors c'est pas tout à fait nouveau, puisqu'en 2004 on a déjà eu un avis de la Cour internationale sur la question de l'irrégularité, enfin bon, de l'illégalité de la construction du mur en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Et à ce moment-là, la Cour avait rendu un avis extrêmement clair sur donc les conséquences juridiques de cette construction et sur l'illicéité, l'illégalité donc de la construction de ce mur. L'avis qui a été rendu en juillet dernier est un avis très important. Il fait quand même 80 pages, donc c'est extrêmement détaillé. Bon, là, sur la question de l'occupation, mais ça va plus loin, puisqu'il y a l'occupation et donc la colonisation et donc l'annexion, et donc la Cour internationale juge l'occupation illégale, notamment parce que c'est une occupation prolongée, et condamne ensuite les conséquences juridiques liées à cette occupation. Et dernièrement, effectivement, en décembre 2024, il y a eu une nouvelle demande d'avis consultatif par l'Assemblée générale concernant cette fois-ci les agences onusiennes et particulièrement l'UNRWA, puisqu'il y a eu des lois israéliennes qui ont interdit donc l'activité de cette agence, à la fois donc sur le territoire d'Israël et par voie de conséquence également sur le territoire occupé. Or, on sait que cette agence, qui avait son siège à Jérusalem, bon, agit sur les territoires occupés, et on rejoint l'avis précédent, puisque cette fois-ci, si c'est des territoires occupés, ils le sont donc d'une manière illégale par rapport au droit international. Et donc, l'avis n'a pas encore été rendu. Pour le moment, on a eu les observations écrites et la phase orale, donc au mois d'avril dernier. Et bon, il est probable que la Cour internationale va rendre cet avis assez rapidement, enfin je le suppose, hein, probablement vers l'été sans doute. Et bon, il est probable également qu'elle reconnaisse que cette interdiction par rapport au territoire occupé donc est contraire au droit international.
Merci.
C'est une supposition. Hein.
Merci beaucoup Jean-Marc Sorel d'avoir été avec nous, professeur de droit à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et au sujet de l'UNRWA, j'ajoute que la direction de l'UNRWA a toujours pris les accusations d'Israël très au sérieux sur le fait d'être infiltré par le Hamas à hauteur de 25% du personnel, mais que à chaque fois qu'elle a demandé des informations pour mener des enquêtes, n'a eu aucun élément de la part d'Israël. Julia Grignon et Jean-François Cartier, vous êtes toujours avec nous pour conclure cette émission. Est-ce que les États aujourd'hui se tournent davantage qu'avant vers la justice internationale dans l'espoir qu'elle rétablisse la paix? Peut-être une première question que je vous pose, Julia Grignon.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que, et on l'a vu déjà avec l'Ukraine, il y a une mobilisation de tous les mécanismes juridiques pour faire valoir la protection des individus dans les conflits armés. Jean-Marc Sorel vient de parler de la Cour internationale de justice, mais il y a également la Cour pénale internationale. Il y a des mécanismes de mise en œuvre au sein des Nations Unies, et donc on a beaucoup de mécanismes qui sont mobilisés. Je voudrais mentionner aussi que au-delà des mécanismes juridictionnels, il y a d'autres mécanismes et des engagements politiques qui doivent être pris. Et aujourd'hui, la France, elle est au cœur d'une initiative mondiale pour renforcer le respect ou l'engagement politique pour le respect du droit international humanitaire. Il y a donc un certain nombre de consultations négociations qui sont menées et d'autres États maintenant s'agrègent à cette initiative. Et je vois ici quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun État pour contester la nécessité de renouveler un engagement politique en faveur du droit international humanitaire ou des États qui diraient que le droit international humanitaire n'est plus efficace ou ne devrait plus être mobilisé dans les conflits armés.
Jean-François Corti.
Oui, on voit que le droit international humanitaire, de l'avis de beaucoup de spécialistes, il est bien écrit, les textes sont bien faits et l'enjeu n'est pas juridique aujourd'hui, il est politique face à l'impunité et donc il faut faire respecter ce droit international humanitaire. C'est un enjeu politique. Simplement redire rapidement aussi que quand on voit un deux poids deux mesures dans l'utilisation de ce droit entre le conflit en Ukraine et ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien, comme je le rappelais tout à l'heure, notamment ce deux poids deux mesures porté par la communauté internationale, surtout occidentale, on voit que du coup ce droit devient davantage un outil de domination que de justice, et c'est quand même problématique. Et dernier point rapidement, on a beaucoup parlé Gaza, la situation se dégrade énormément en Cisjordanie, nous avons aussi Médecins du Monde, des équipes là-bas, c'est 50 000 personnes qui ont été déplacées, qui rentreront pas chez elles depuis le début 2025, c'est de plus en plus de checkpoints, c'est des villes qui sont sous siège, l'impossibilité de faire de l'action humanitaire dans de bonnes conditions, et aujourd'hui on a énormément d'inquiétudes par rapport à une période de réenregistrement des organisations internationales en cours avec les autorités israéliennes comme pour l'UNRWA qui vont restreindre la possibilité de pouvoir prendre la parole pour des ONG comme la mienne qui font du plaidoyer. Donc on voit qu'on est aussi dans une dérive, une régression démocratique.
Merci beaucoup Jean-François Corti. Vous consacrez un chapitre entier à Gaza dans votre géopolitique de l'action humanitaire qui vient de paraître chez Erol. Je rappelle que vous êtes président de Médecins du Monde. Et merci beaucoup Julia Grignon, professeure en droit international humanitaire à l'IRSEM. Merci d'avoir été avec nous pour clore cette série Regardez Gaza en face.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous emmenez, Catherine, d'abord dans le nord du Togo, où la population est sous la pression djihadiste.
L'impression d'un étau qui se resserre dans le nord du Togo, autour des habitants de la région des savanes. Son gouverneur alerte sur l'extrémisme, sur les tentatives de division religieuse ou ethnique qui menacent le tissu social, rapporte l'agence togolaise de presse. Nous sommes à la frontière avec le Burkina Faso, où depuis 2015, les attaques djihadistes sont de plus en plus fréquentes, rappelle Jeune Afrique. Et si l'on zoome un peu plus, on peut voir les communautés peules prises entre l'enclume djihadiste et le marteau de la junte au pouvoir. Au Burkina Faso, comme au Mali d'ailleurs, relève Jeune Afrique dans une série d'enquêtes aussi glaçantes que passionnantes. Et par effet domino, plus au sud, la région des savanes au Togo connaît, elle, une crise humanitaire inédite depuis 2022, alerte le journal togolais La Bali et le quotidien Liberté, avec des incursions terroristes, des tensions aussi entre populations déplacées et des agriculteurs, pâturages et points d'eau y sont chaque jour davantage source de conflits, souligne Jeune Afrique. Et pourtant, dans la région des savanes, l'élevage tient une place importante et les villageois togolais avaient l'habitude de confier leur bétail aux peuls sédentarisés. Ils restaient dans les villages avec leur famille, ajoute Jeune Afrique. Et les bouviers ne partaient vers la forêt qu'en saison sèche, entre février et mai, quand les pâturages devenaient rares.
Mais cet équilibre s'effondre.
Avec l'augmentation de la population, l'afflux de réfugiés qui ont fui le terrorisme au Burkina Faso notamment, sans compter de nouvelles pratiques agricoles et le dérèglement climatique. L'eau manque, l'herbe a disparu, raconte Pendo Kourido, une éleveuse de la région des savanes, interrogée par Jeune Afrique. Même dans les zones reculées du Togo, poursuit le magazine panafricain, les groupes armés viennent voler le bétail des communautés peules du nord du pays et les pâturages jonchés d'engins explosifs improvisés sont devenus des terrains dangereux. Les djihadistes ont même tué un jeune peul qui servait d'interprète à la gendarmerie. Il symbolise le sort réservé à ceux perçus comme proches des autorités, indique Jeune Afrique. Mais les forces de sécurité togolaises soupçonnent, elles, les peuls d'aider les terroristes. Une communauté donc prise en étau, forcée à des déplacements incessants, mais depuis que les surfaces cultivées prennent le pas sur les pâturages, sur les couloirs de transhumance, aussi dans le nord du Togo, nos bœufs meurent de faim. Les paysans ont labouré partout, déplore un éleveur dans les pages de Jeune Afrique. Malgré des appels au dialogue relayés par l'agence togolaise de presse, la communauté peule souffre au Togo et même dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Enfin, Catherine, hommage au cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys dans la presse internationale. Brian Wilson est mort à l'âge de 82 ans.
Un génie aussi visionnaire que tourmenté, s'accordent à dire le Los Angeles Times, NME, la BBC et le magazine Rolling Stone. Brian Wilson a su explorer les possibilités infinies du son, créant non seulement des mélodies, mais aussi des textures, des harmonies vocales complexes, des cathédrales sonores, estime le Los Angeles Times. Brian Wilson, à qui l'on doit Surfing in USA, I Get Around, Good Vibrations, God Only Knows, énumère encore Rolling Stone. Et c'est grâce à lui, Brian Wilson, ajoute le Los Angeles Times, que la pop californienne a pu résonner dans le monde entier, rivalisant avec les Beatles, émulation créative, sans l'album Pet Sounds des Beach Boys, pas de Sgt. Pepper's des Beatles. Et je vous propose d'écouter un joyau de l'album abandonné, Smile, il s'agit de Surf's Up. A diamond necklace played the pawn, hand in hand, some drove the long walk to a handsome man in the town. A blind class aristocracy, back through the opera class, you see. L'une des chansons les plus étonnantes des Beach Boys, s'enthousiasme le magazine Rolling Stone, Surf's Up, avec des références à des nouvelles de Poe, de Maupassant, un synthétiseur Moog aussi, et des chœurs de la famille Wilson.
Merci beaucoup Catherine Dutuche. Dans un instant, les Midis de Culture.